J'ai fait un rêve.
Pour ma maison, pour mes enfants.
Dieu m'a donné un rêve.
Pour mon église.
Il y a longtemps.
Pour mon couple.
Est-ce que ça va rester qu'un rêve?
On fait tous des rêves.
Comment connaître celui de Dieu?
Pourquoi est-ce que c'est si long?
Je me sens perdue. J'ai fait un
rêve. J'ai fait un rêve. Je le sais.
Je veux trouver la force de tenir.
Je perdrai pas l'espoir.
Je perdrai pas la force.
Je sais que Dieu n'a pas oublié ce rêve.
Je sais que Dieu a encore un rêve.
Pour ma maison, pour mes enfants, pour mon église, pour mon couple.
Pour moi.
Amen. Tellement heureux de pouvoir me joindre dans cette série « Rêves de Dieu ». Quelle série extraordinaire, hein? Les rêves que Dieu a pour vous, pour toi, pour nous. Peu importe notre âge, hein? Ce n'est pas parce que nous avons atteint un certain âge honorable qu'il n'y a plus de rêves, hein? Que c'est terminé pour nous. Hein? Les rêves, c'est pour les jeunes. Non, la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, mais les plus âgés auront des rêves. Nous rêvons de voir des choses s'accomplir. Amen. Et encore ici à Châteauguay et dans nos vies personnelles. Et moi, ce matin, ce que je veux vous adresser comme ce que j'avais sur mon cœur, c'est de vous parler du rêve de Dieu pour l'Église. Quel est le rêve de Dieu, le plan de Dieu pour son Église? Et je crois que le rêve de Dieu pour Nouvelle Vie Châteauguay est en train de se concrétiser. Il y a des gens qui ont investi, des gens comme vous, qui ont investi des années de labeur, de sueur aussi, de prière, d'intercession, de travail auprès des gens depuis des années. Et on est en train aujourd'hui de voir ce rêve se réaliser, se dévoiler, se concrétiser dans notre région, et nos yeux sont en train de le voir agir, et nous allons le voir se réaliser, ce rêve-là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin comme des participants, mais aussi comme des collaborateurs de sa réalisation? Et je crois qu'un rêve, essentiellement un rêve, doit toujours être plus grand que ce que nous sommes. Plus grand que ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes aujourd'hui. Le rêve est toujours plus grand que ce que je suis et ce que je suis capable de faire. Un rêve se définit comme comment je me vois dans 5 ans. Comment je me vois dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que j'aimerais voir s'accomplir dans ma vie? Ce que je m'imagine que sera ma vie dans le futur. Et ce rêve-là, cet objectif que nous avons donné par Dieu va ensuite déterminer ce que je vais faire aujourd'hui pour pouvoir l'atteindre demain. Et ce n'est pas un mirage, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas juste de l'imagination d'enfant, c'est un rêve, c'est un projet, c'est un objectif qui amène à un plan pour qu'il puisse se concrétiser. Si je pourrais le dire de cette façon, Dieu avait un rêve lorsqu'il a créé le monde. Lorsqu'il a créé l'univers, il avait un plan. Il avait un rêve d'une certaine façon. Il voyait des choses. Il voyait d'avance ce que pourrait être l'univers, ce que pourrait être la vie des humains. Et il l'a fait. Il n'a pas juste rêvé, il l'a accompli. Quand Dieu a créé l'Église, il avait un rêve. Il avait un plan, un objectif. Il voyait quelque chose de plus grand que ce que vous et moi, nous pouvons même imaginer ou penser par rapport à l'Église. Il voyait quelque chose qui allait étonner le monde. Il imaginait une Église qui allait surprendre par sa nature même. Il voyait, en fait, quelque chose qui allait se distinguer de tout ce que le reste de la société peut être. Amen. N'importe quand vous pouvez dire amen, ça m'encourage aussi. Amen. Il planifiait donc une communauté spirituelle qui allait accomplir son plan, qui allait accomplir son rêve et intriguer la société et même les gens qui allaient la côtoyer et la composer. Et ce matin, donc, je veux qu'on regarde, en fait, les premières heures de l'Église. Dans le livre des Actes des Apôtres, premières heures, première journée de la vie de l'Église et de regarder ensemble quel impact elle a eu sur sa génération, parce que ce regard, ce que nous allons regarder ce matin, va devenir notre rêve et notre objectif pour Nouvelle Vie Châteauguay également, parce que c'est le rêve de Dieu qui est en train de s'accomplir dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, tournez avec moi, vous avez votre Bible, ou sinon, vous suivez sur l'écran, Actes chapitre 2. Le premier verset, « Le jour de la grande fête de la Pentecôte, un peu plus d'une centaine de disciples de Jésus étaient réunis tous ensemble dans le même lieu, un peu comme nous ce matin. Mais tout à coup, de façon inattendue et surprenante, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un coup de vent violent, et il remplit toute la salle où ils étaient réunis. Au bruit qui eut lieu, la foule accourut pour voir ce qui se passait, et elle fut intriguée parce que chacun des disciples parlait des merveilles de Dieu dans des langues différentes. Les gens de la foule étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient entre eux, « Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire et que devons-nous faire? » Et ce matin, je vais attirer votre attention sur quelques mots qui ont attiré mon attention à sa lecture. Ce sont les mots « intrigué »,« étonnement » et « surprise ». La foule était intriguée et tous étaient dans l'étonnement et la surprise. Pour moi, le livre des Actes des Apôtres commence vraiment sur les chapeaux de roue. Amen. Avec un événement qui est surnaturel, qui est public et qui provoque de la surprise, de l'étonnement, au point que tous les gens qui ont été témoins de cet événement ont été intrigués, se sont gratté la tête, se sont demandé « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? » Et ils étaient étonnés, ils étaient dans l'étonnement. Qu'est-ce que c'est que l'étonnement? C'est défini comme étant de l'admiration, comme étant de l'émerveillement, comme étant de la contemplation ou de l'étonnement face à quelque chose qui est hors de l'ordinaire, qui est extraordinaire. On est étonné. Et vous savez, le mot utilisé ici pour étonnement, il est présent 70% des fois où il est présent dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament qu'on retrouve ce mot-là de l'étonnement. Donc, le Nouveau Testament, en fait, est marqué par l'étonnement du début jusqu'à la fin. En fait, l'Évangile de Jésus-Christ est étonnant. Amen. L'Évangile de Jésus provoque l'étonnement et la surprise. Luc, qui est l'auteur de l'Évangile de Luc, mais aussi du livre des Actes que nous sommes en train de regarder ensemble ce matin, c'est lui qui mentionne le plus la réaction d'étonnement et de surprise, que ce soit lors de la naissance de Jésus, l'étonnement, la surprise, l'inattendu, ou lorsque ce soit lors de sa résurrection, la résurrection de Jésus. Tout le monde est étonné, les disciples sont étonnés et surpris également. Le livre des Actes des Apôtres nous parle constamment d'étonnement. Je vous donne quelques exemple dans Actes chapitre 3, après la guérison miraculeuse d'un homme qui n'avait jamais marché de sa vie, en fait, tout le peuple fut saisi d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui venait d'arriver. Alors, tout le peuple étonné accourut vers Pierre et Jean à ce moment-là. Un peu plus tard, en voyant la transformation radicale que Dieu a opérée dans le cœur de Saul de Tarse, persécuteur violent et cruel contre l'Église de Dieu, et comment il a été transformé pour devenir un proclamateur de l'Évangile, tous ceux qui l'entendaient, qui le voyaient, étaient dans l'étonnement et la surprise et se demandaient ce qui pouvait bien lui être arrivé pour être transformé à ce point-là. Et à travers toutes les Écritures, c'est l'étonnement, c'est la surprise. Et quand on réalise combien l'Évangile, combien l'œuvre de Dieu sont étonnants et surprenants, en réalisant combien l'Église des Actes provoquait l'étonnement et la surprise, moi, je me suis demandé, qu'est-ce que nous pourrions bien faire pour qu'en 2022, l'Église Nouvelle Vie Châteauguay puisse encore étonner positivement. Comment nous pourrions étonner notre communauté? Comment nous pourrions étonner la région ici de Châteauguay et les villes et villages alentours? Comment on pourrait étonner, surprendre encore cette région? Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler de trois choses, trois éléments qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, mais que nous pouvons encore aujourd'hui pratiquer, mettre de l'avant pour atteindre ce potentiel d'étonner, mais aussi pour atteindre et construire le rêve de Dieu dans notre région. Vous êtes avec moi ce matin? Trois choses qui vont avoir le même effet que ça a eu au moment du livre des Actes des Apôtres et qui est la concrétisation du rêve de Dieu pour nous. Premièrement, le rêve de Dieu pour l'Église, c'est une Église qui est marquée par la générosité. Par la générosité. Le récit des Actes des Apôtres nous donne un facteur déterminant pour étonner et surprendre encore notre génération, des œuvres de justice, mais aussi la guérison de ceux qui souffrent. Et on voit l'Église qui va s'organiser pour la distribution de nourriture et de denrées envers ceux qui ont faim, mais aussi pour apporter la guérison et les soins pour ceux qui sont malades. Et ces deux éléments-là se regroupent sous ce même thème, la générosité. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos des autres. Nous ne sommes pas ici à propos de nous, nous sommes ici à propos de ceux qui nous entourent, à propos des autres. Et dès ces premiers jours, l'Église, en fait, a dû affronter un beau problème. Une croissance phénoménale. 3000 nouveaux convertis, baptisés dans une seule journée. 3000 nouvelles personnes qui viennent à Christ, qui sont attirées par le Saint-Esprit et qui vont être baptisées dans l'eau dans la même journée. Ça, c'est une croissance que tous les pasteurs aimeraient voir dans leur région, dans leur église. Ça, c'est le rêve de tous les pasteurs, avoir des milliers de nouveaux chrétiens dans un très court laps de temps. Et l'action de Dieu était extraordinaire et étonnante. Et les jours qui ont suivi ont nécessité une action concrète et tangible pour pallier à un besoin soudain, subi. Des milliers de personnes, des milliers de familles qui sont arrivées à Jérusalem et à travers tout l'Empire romain et qui ont décidé de séjourner un petit peu plus longtemps pour profiter de la vie de l'Église, pour grandir dans leur foi en Jésus, parce qu'ils avaient décidé de suivre Jésus. Et donc, il fallait s'occuper de ces gens-là. Alors, les nouveaux membres de cette jeune Église ont décidé d'agir, de s'organiser avec la générosité. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 encore, dit ceci, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. » Certains vendaient leurs propriétés, d'autres leurs biens sur Kijiji, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ben oui, Kijiji à cette époque existait déjà. Ils étaient tous ensemble et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité en remerciant Dieu pour tout ce que Dieu était en train de faire. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient en train d'être sauvés. Croissance qui continue. À travers tout ça, leur générosité et leur bonne volonté à donner selon les capacités de chacun et parfois même au-delà de leurs capacités a été un facteur déterminant que Dieu a utilisé pour étonner leur génération et pour continuer cette croissance phénoménale qu'ils étaient en train de vivre. Ils ont appliqué à leur manière et selon leurs capacités ce que Jésus avait démontré par la multiplication des pains et des poissons, c'est-à-dire de rencontrer les besoins vitaux des gens qui sont juste là devant nous. Amen. Le facteur générosité qui les a emmenés à un autre niveau de vie. C'est John Maxwell qui disait, « Donner est le plus haut niveau de vie. Donner, être généreux. Vous voulez passer à un autre niveau dans votre vie? Générosité. Vous voulez passer à un autre niveau de qualité de vie? Générosité. » Donner, être généreux. L'apôtre Paul, lui, le disait de cette façon, « Assurez-vous de bien vous souvenir de ceux qui sont dans le besoin et de faire quelque chose pour eux. » Souvenez-vous. C'est une chose de se souvenir des autres. Ah oui, je sais qu'un tel... Mais faites quelque chose pour eux. Faites quelque chose pour eux. Mettez la main dans votre poche, sur votre clavier, dans votre compte. Faites un don de générosité. Alors que les organismes d'entraide, on le sait, on l'entend partout aux nouvelles, les organismes d'entraide sont débordés en ce moment. Les besoins de nourriture, de vêtements augmentent chaque mois, pour ne pas dire à chaque jour. Et je crois que cela, c'est une opportunité où l'Église aura de plus en plus d'occasions pour étonner et marquer notre génération, marquer notre société, marquer notre communauté par notre générosité à rencontrer des besoins vitaux et essentiels dans notre communauté, ici comme au loin également. Amen. L'Église du 21e siècle, elle a aussi des opportunités incroyables de pouvoir apporter guérison et prendre soin des cœurs et des vies brisées aujourd'hui. Tout comme dans l'Église des Actes. Alors que les apôtres Pierre et Jean entraient dans le temple, ils ont vu un homme qui était boiteux de naissance, donc il n'avait jamais marché. Et la Bible nous dit qu'ils se sont approchés de lui. Et Pierre lui a dit quelque chose comme ceci. « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main... Il n'est pas juste dit que Dieu te bénisse. Il lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais ensuite, il a sorti sa main. Il a étendu sa main. Et le prenant par la main, il est dit, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il y a des multitudes aujourd'hui de gens qui boitent dans la vie. Des gens qui ne savent juste pas comment marcher, qui n'arrivent pas à suivre le rythme, qui n'arrivent pas à marcher dans cette société, dans leur famille, dans leur travail, qui ont de la difficulté à suivre le pas d'une génération qui manque de rythme dans des nombreuses difficultés qui se présentent dans une vie. Il y en a plusieurs qui tombent dans le noir, qui ne savent pas à quel saint ou à quel psy se vouer. Ils cherchent de l'aide. Ils cherchent pour quelqu'un qui pourrait leur tendre la main et juste les guider pour quelque temps, un peu comme le témoignage du 21-59 qu'on a entendu ce matin. Les guider vers celui qui peut et qui va affermir leurs pieds, leurs chevilles, pour qu'ils puissent un jour marcher par eux-mêmes et peut-être même aider quelqu'un d'autre à marcher. Et pour utiliser une expression moderne, on appelle ça de la relation d'aide. La relation que j'ai avec quelqu'un d'autre, c'est de l'aider. C'est juste de l'accompagner, de l'aider. Et l'Église a pendant longtemps laissé ça à la société, laissé ça aux professionnels, laissé ça au gouvernement. Mais le système, il est débordé. Le système ne réussit pas à apporter toute l'aide nécessaire. Donc l'Église, et ça c'est chacun de nous, chacun à notre mesure, on peut contribuer à aider des gens à marcher en leur donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, qui est plus grand que leurs problèmes. Mais non seulement leur donner le nom, ce qui est extraordinaire, qui est indispensable, mais aussi leur donner une main, la nôtre. Juste la nôtre, pour les aider à se lever de leur détresse, pour qu'ils trouvent du réconfort, du soulagement, de la guérison de leur cœur, qu'ils puissent marcher dans la liberté que Jésus donne. Il y a plein de gens autour de nous qui ont besoin que quelqu'un leur tende la main, pour les aider à se relever d'un deuil, d'un divorce, d'une perte d'emploi, d'une rupture, d'une faillite, d'une dépendance, d'un accident, d'une dépression, d'une chute. Combien de gens autour de vous ont besoin de ta main, d'une parole d'encouragement? Il n'y a rien qui parle plus fort et qui ne sert mieux les gens et le rêve de Dieu que la générosité de l'Église, dont nous sommes membres, vous et moi. Chacun à notre mesure, chacun selon notre potentiel. L'étonnement de la société par rapport à l'Église, ce n'est pas seulement le nombre de personnes qui y assistent le dimanche matin, c'est le nombre de personnes que l'Église sert et atteint par sa générosité. Alors, découvrons et développons cette habitude de donner autour de nous, de donner à l'Église, pour qu'ensemble, on puisse faire une différence dans notre communauté, avec générosité, d'être un témoignage étonnant pour notre région, parce que ça aussi, c'est le rêve de Dieu pour son Église, pour Nouvelle Vie Châteauguay. Amen. Vous êtes avec moi ce matin?
Amen.
Deuxième élément qui a étonné et qui est dans le rêve de Dieu, c'est une Église qui marche dans l'intégrité. La générosité et l'intégrité. Les actes des apôtres ont été rapidement testés sur leur intégrité. Depuis le jour où 3000 personnes ont été baptisées, se sont joints à l'Église, les chrétiens apportaient de l'argent, des biens pour aider la nouvelle Église naissante. Les uns vendaient des biens, des propriétés, apportaient le produit de leur vente à l'Église. Il y en a d'autres qui s'impliquaient dans la distribution des denrées alimentaires envers les veuves, envers les démunis. C'était une Église en action, débordante de servir avec générosité. Et un jour, comme une autre journée, il y a un couple qui s'est présenté avec une grosse somme d'argent, un gros sac avec le signe de pièce dessus. Ils sont arrivés en affirmant qu'ils avaient vendu un terrain à un gros prix, qu'ils avaient pris tout l'argent de la vente et ils l'apportaient aux pieds des apôtres. C'est une expression qui veut dire qu'ils l'apportaient, ils l'ont donné comme offrande à l'Église. Ils ont dit, ça, on a vendu un champ, on a vendu quelque chose qui très chers à nous, puis on vous apporte tout l'argent au complet, de cette vente-là, ce qui n'était pas la vérité, par contre. Parce qu'ils avaient gardé, ils étaient convenus ensemble, ce couple-là, de garder une partie de l'argent pour eux, ce qui était leur droit. Ils avaient le droit de garder 75 % de la vente s'ils voulaient. Ils auraient pu même garder 100 % de la vente. C'était pas, personne n'était obligé de donner. Mais ils ont dit, ça, on a vendu et on le donne au complet pour les œuvres de l'Église. Et leur erreur avait été de déclarer, donner la totalité au prix de vente, du prix de vente, ce qui les faisait passer pour des donateurs extrêmement généreux, détachés des biens matériels, mais bien au-delà de la réalité et de la vérité. L'Église faisait face à sa première crise d'intégrité. Et la chose a été connue. Et le leadership de l'Église aurait pu juste dire, « Bon, on va prendre l'argent et merci beaucoup, vous êtes tellement généreux, tout en sachant que ce n'est pas la vérité. » Mais le leadership de l'Église a rapidement pris la situation à cœur et ils ont confronté ce manque d'intégrité et pour ainsi décourager toute autre personne à suivre un tel comportement qui aurait inévitablement intoxiqué le témoignage et la puissance de l'Église. Et quelques versets plus loin, le texte des Actes poursuit en mentionnant que face à cette situation administrative et de distribution équitable de nourriture, de biens de consommation et d'argent, le livre des Actes nous dit qu'ils ont établi une marche à suivre. Acte 6 dit « Choisissez-vous des hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient remplis d'Esprit Saint et de savoir-faire et nous les chargerons de cet emploi. » Ils ont recherché des personnes de qualité, des personnes d'intégrité pour faire ce travail-là tellement important et ils ont trouvé des personnes de qualité et d'intégrité pour s'occuper des affaires administratives. Notre société... Et dans toutes les sphères de la société également, notre société vit une réelle et profonde crise d'intégrité. Que ce soit dans le niveau sportif, avec le dopage, avec les abus sexuels de la part de certains entraîneurs corrompus, le show business, avec le harcèlement sexuel et avec la chute des vedettes, la politique avec les pots de vin, les promesses brisées, ou encore les multinationales qui engrangent des milliards de dollars au détriment de leurs employés qui gagnent moins que le salaire minimum, ou des leaders d'église avec leur manipulation pour recevoir toujours plus d'argent pour satisfaire leur ego et leurs besoins personnels. Je crois que s'il y a un temps où l'Église du 21e siècle se doit et peut et doit étonner notre société, par son intégrité, c'est aujourd'hui. Nous avons une opportunité de briller par notre intégrité. Et l'intégrité, ce n'est pas juste la responsabilité de pasteur Florian ou des principaux leaders de cette Église. L'intégrité, c'est notre affaire à nous tous, parce que nous sommes tous représentants de cette Église. C'est notre affaire à nous tous. L'intégrité doit être la marque distinctive d'une église dans sa ville, dans sa communauté, dans son voisinage, et on en fait tous partie. Alors que je préparais ce message, c'est le début d'année, on reçoit nos reçus pour fin d'impôt suite aux dons qu'on peut avoir fait durant l'année précédente. Et il y avait une lettre de pasteur Luc Poirier, qui est notre responsable du département de comptabilité de l'Église Nouvelle Vie. Et il y avait cette phrase, et je vous laisse, c'est une citation Luc Poirier. « Je tiens à vous rappeler notre engagement à faire preuve de la plus grande intégrité dans l'administration de notre Église et dans la compilation de vos dons. » Et je dis, waouh, merci Seigneur pour cet engagement. Et ce n'est pas juste l'engagement d'un homme, c'est l'engagement de toute son équipe. C'est l'engagement de tous ceux qui travaillent à l'Église Nouvelle Vie. C'est l'engagement de l'Église Nouvelle Vie de marcher dans l'intégrité par rapport aux finances, par rapport aux dons qui sont faits. Nous faisons ce que nous disons. Amen. Et nous disons ce que nous faisons aussi. Merci Seigneur pour ça. Mais qu'est-ce que c'est que l'intégrité? L'intégrité, c'est le fondement de toute l'influence qu'une église peut avoir ou qu'une personne peut avoir envers les gens autour d'elle. L'intégrité, elle est définie comme étant l'état qui fait que quelque chose ou que quelqu'un est entier, est complet, qui est vrai, qui est honnête, qui est uni. En fait, c'est son contraire, c'est la duplicité. C'est d'avoir une vie double. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire vraiment. Et quand nous sommes intègres, nos paroles et nos actions se rejoignent. C'est la même chose. En fait, quelqu'un disait, l'intégrité, c'est que nous sommes qui nous sommes, peu importe où nous sommes et avec qui nous sommes. Je suis ce que je suis, peu importe avec qui je suis et où je suis. Je suis ce que je suis. L'intégrité, ça n'a pas à voir avec ce que nous faisons, en fait, mais ça a à voir avec ce que nous sommes. Sommes-nous intègres? Sommes-nous honnêtes? Sommes-nous authentiques? Sommes-nous vrais? En tant qu'Église, nous sommes tous responsables de l'intégrité de l'Église. Parce que partout où nous sommes, et peu importe avec qui nous sommes, nous représentons Christ, nous représentons Jésus, nous représentons son Église. Amen. Nous représentons, et cette authenticité, cette intégrité va bâtir la confiance des gens envers l'Église. Lorsque le leadership de l'Église de Jérusalem a confronté le manque d'intégrité qui était présent chez quelques-uns, le respect, la crainte de Dieu se sont installés. Bon, Dieu a agi d'une façon assez radical pour éradiquer cette situation, mais le respect, la crainte de Dieu, dans un moment de réveil, dans un moment de croissance, dans un moment où, waouh, extérieurement, il fallait préserver l'intérieur, il fallait préserver les cœurs, il fallait préserver l'intégrité, et la confiance dans le leadership a augmenté et rassuré l'Église. On a une grande opportunité aujourd'hui comme Église d'impacter en brillant par l'intégrité dans tous les domaines et dans toutes les sphères de nos activités et de nos paroles. Chacun pour notre part, intégrité dans nos affaires. Tu veux-tu une facture ou tu payes comptant? Tu vas dire des petits détails. Qui le sait? C'est lui qui me l'a offert. Intégrité. Tu m'as remis un peu trop d'argent. Je te le... Intégrité dans les petites choses, intégrité dans notre témoignage en disant des choses sans exagération. Tu n'as pas besoin de pimper ton témoignage pour avoir l'air un petit peu plus hot. C'est comme ça que ça s'est passé. Intégrité dans nos dons, dans la gestion de notre argent, intégrité dans nos manquements et nos erreurs sans les cacher par des mensonges qui détruisent la confiance, intégrité dans notre travail envers notre employeur en arrivant à l'heure et en partant à l'heure, intégrité dans nos études en complétant nos examens et nos devoirs sans tricherie, sans plagiat, pour atteindre un faux succès. Intégrité, c'est pas toujours facile, surtout quand on est tout seul, mais c'est toujours payant à long terme. Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu vas l'être dans les grandes. Si tu es intègre dans les petites choses, tu vas l'être dans les grandes également. C'est Billy Graham qui disait ceci, quand on perd de l'argent, rien n'est perdu. Quand on perd la santé, quelque chose est perdu. Mais quand on perd notre intégrité, tout est perdu. Tout est perdu. Et c'est pourquoi je crois profondément que l'Église, nous vivons des jours exceptionnels. On peut s'alarmer avec tout ce qui se passe dans notre monde et c'est vrai que ça ne va pas si bien que ça en ce moment et c'est un euphémisme, mais nous avons toute une opportunité de briller, tous ensemble, par l'intégrité de chacun de nous, dans notre maison, dans notre chambre, dans notre appartement, dans notre lieu de travail, dans notre lieu d'études, dans notre voisinage, dans notre église, dans notre famille. Donc, la prochaine fois que nous serons tentés de juste modifier un petit peu. Sors ton intégrité. Sors ton intégrité. Hein, juste faire semblant. On sort notre intégrité. Il y a plein de gens qui aspirent à avoir une église qui vit ce qu'elle dit. Et pour moi, ça aussi, c'est le rêve de Dieu pour l'Église Nouvelle Vie Châteauguay. Amen. Troisièmement et dernièrement, générosité. Le rêve de Dieu, c'est une église qui marche dans la générosité. Le rêve de Dieu pour son église, c'est une église qui vit dans l'intégrité. Mais c'est aussi une église qui vit avec un témoignage du miraculeux. Vous avez probablement tous déjà lu le livre des Actes des Apôtres, sinon, devoir cette semaine, le livre des Actes des Apôtres. S'il y a quelque chose qui ressort lorsque tu le lis assez rapidement, c'est la présence du miraculeux. La présence de miracles. Et à première vue, on a l'impression qu'il devait avoir des miracles à tous les jours. Sauf qu'il faut se rappeler que ces 28 chapitres du livre des Actes, ça se passe sur une période de 30 ans. Alors, il y a probablement des miracles qui ne sont pas relatés dans le récit, mais qu'il n'y avait peut-être pas des miracles non plus à tous les jours. Et l'auteur du livre des Actes, Luc, veut absolument, par contre, que les lecteurs sachent que l'Église existe à cause d'une intervention miraculeuse et surnaturelle de Dieu. Luc veut que c'est ça qu'on se rappelle lorsqu'on termine, c'est que Dieu intervient surnaturellement dans la vie des gens. Et je pourrais vous parler ce matin de tellement d'histoires surnaturelles, de tellement d'interventions divines pour vous démontrer que l'Église a commencé dans la puissance de Dieu et qu'elle continue encore dans la puissance de Dieu. Et sous cet angle de lecture-là, on a vraiment l'impression que le livre des Actes des Apôtres, en fait, c'est un livre de témoignage. C'est un livre de témoignage de comment la puissance de Dieu intervient et agit dans la vie des gens, comment Dieu change de façon radicale la vie de milliers de personnes. En fait, je pourrais vous raconter cette première histoire dont on parlait tantôt, de comment le nom de Jésus a transformé un boiteux de naissance qui n'avait jamais marché, qui en fait un homme qui va sauter marchant, louant Dieu pour cette nouvelle vie qui est maintenant remplie de possibilités, de promesses qui s'ouvrent devant lui. Je pourrais vous parler de comment il y a des centaines de personnes qui ont été délivrées de puissances occultes, de nombreuses personnes qui étaient paralysées, qui étaient quadriplégiques, qui se sont mis à nouveau à marcher par la puissance de Dieu, ou encore comment le pire persécuteur de l'Église, Saul de Tarse, va être arrêté surnaturellement, miraculeusement dans sa folie de sanguinaire et qui va devenir le plus grand missionnaire et prédicateur de tous les livres des Actes des Apôtres et probablement de l'histoire de l'Église aussi. Combien aussi et comment de hauts gradés de l'armée, du gouvernement, de l'Empire romain vont donner leur vie à Jésus et vont devenir un témoignage de la puissance de Dieu, même jusque dans le palais de César à Rome. Ou encore comment cette femme entrepreneur qui faisait le commerce de textile va ouvrir son cœur à l'Évangile et sa vie elle va être complètement transformée. Ou comment un jeune homme un petit peu téméraire, après, qui a été ressuscité après avoir fait une chute mortelle du troisième étage d'un immeuble, alors que lui, il s'était assis sur le bord de la fenêtre au troisième étage. Comment il est tombé, il est mort, mais il a été ressuscité, ramené à la vie. Comment sa vie a certainement dû changer. Il ne s'est jamais pu assis sur le bord d'une fenêtre, même dans un sous-sol. Plus question en comment même un homme qui s'est fait mordre par une vipère qui certainement allait le tuer par son venin, mais contre toute attente, il ne ressent absolument rien. Il est complètement délivré d'une mort certaine. Des hommes, des femmes, des jeunes, des aînés, des pasteurs, des commerçants, des militaires, des fonctionnaires, des théologiens, des itinérants, des handicapés physiques et intellectuels. Luc semble vouloir nous montrer qu'on comprenne aussi que la puissance de Dieu est encore capable de changer radicalement la vie des gens, comme Dieu a transformé votre vie également. Amen. L'Église, elle existe, elle avance encore aujourd'hui par l'intervention miraculeuse et surnaturelle du Seigneur de l'Église. Et encore aujourd'hui, il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre votre témoignage de vie transformée. Et je ne parle pas d'un changement d'église ou d'un changement de religion. Ça n'a rien à voir. C'est un changement de vie. Un changement de vie. C'est ce beau témoignage de vie transformée. Ça, c'est le miraculeux de Dieu qui fait encore aujourd'hui que l'Église peut encore étonner, surprendre notre société. Ma vie était comme ça avant. Jésus est entré dans ma vie et voici ma vie maintenant comme elle est. Elle n'est pas parfaite. Mais elle est transformée. Mes péchés ont été pardonnés. Il n'y a plus aucune condamnation dans ma vie. J'étais esclave de ceci, j'étais esclave de cela, ou peut-être je n'avais pas de grand esclavage non plus, mais j'étais perdu et maintenant je suis retrouvé. Amen. J'étais mort et maintenant je suis revenu à la vie. Faisons connaître ces véritables histoires fraîches de vie transformée alors qu'on rencontre de nouvelles personnes régulièrement, de raconter notre témoignage simplement. Pas besoin de connaître les 10, 15 versets qui vont aller avec votre témoignage. Pas besoin d'avoir tout bien construit. J'étais aveugle et maintenant je vois, était le témoignage d'un homme dans l'Évangile de Jean. Je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela, je ne connais pas tout. Mais je sais une chose, je ne voyais pas. Mais maintenant, mes yeux sont ouverts. J'étais aveugle et maintenant, je vois. J'étais mort intérieurement. J'étais vide intérieurement et maintenant, je suis rempli. Maintenant, je n'avais pas de but dans la vie. Je ne savais pas quoi faire dans la vie. Je ne savais pas où aller. J'avais peur de mourir. Maintenant, je sais que j'ai la vie en Jésus. Je sais maintenant où je vais pour l'éternité. Amen. Nous sommes entourés de personnes dont la vie est boiteuse, qui vont nulle part. Juste à côté de nous, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui sont troublés. Ils peuvent avoir une vie matérielle bien remplie, bien comblée de tout ce que les gens peuvent rêver, mais qui sont confus et vides à l'intérieur d'eux. Il y a des gens dans notre entourage qui servent une religion, une philosophie, une mode, une croyance, mais qui continuent à chercher parce qu'il n'y a rien de ça qui vient les combler. Il y a des gens qui sont piqués par l'ennemi, qui ont un venin mortel dans les veines, qui sont aux prises avec des dépendances à la drogue, l'alcool, le jeu, la pornographie. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre notre témoignage de vie transformée, qui ont besoin d'entendre l'évangile de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, « Vous serez alors mes témoins chez vous à Jérusalem. » Dans votre voisinage, dans la Judée et la Samarie, pour atteindre des gens dont la vie est rendue à l'extrémité de la douleur et de l'inimaginable. C'est ainsi que la parole de Dieu se répandait, continuait à croître, que l'Église grandissait. Parce que ça aussi, c'est le rêve de Dieu pour son Église et c'est le rêve de Dieu pour ta vie également. Amen. J'ai demandé à Stéphane, s'il te plaît, de revenir. Le rêve de Dieu, c'était de créer une communauté. La communauté de l'agneau. La communauté, l'Église, qui allait devenir un agent de changement. Une manifestation de sa générosité, de sa vérité, de son intégrité et un représentant de sa puissance. On se fait souvent dire que si tu veux voir ton rêve se réaliser, il faut que tu fasses quelque chose. Il ne faut pas juste que tu restes assis en disant, « Bien, un jour, j'espère que, puis je ne fais rien maintenant. » Il faut faire quelque chose pour que les rêves se réalisent. Alors, je me suis posé la question, « Mais qu'est-ce que Dieu a fait, lui, pour que son rêve se réalise? » Et là, j'ai été ébloui par la croix de Jésus. Il a donné son sang. Il a donné littéralement sa vie pour que ce rêve se réalise dans la tienne, pour que son rêve se réalise à Châteauguay. Dieu a investi dans son rêve, il a tout donné, il s'est incarné dans la personne de Jésus. Il a donné son sang, l'apôtre Paul disait dans le livre des Actes, il a parlé de l'Église du Seigneur que Dieu s'est acquise au prix de son propre sang. Dieu n'a pas juste rêvé un projet en espérant que ça puisse se réaliser. Il n'a pas juste imaginé quelque chose en espérant que des gens allaient le faire. Il a tout fait. Il a tout donné pour que ce rêve se réalise, se concrétise avec une certitude et un plan éternel et durable. L'Église, elle existe et elle est belle aux yeux de Dieu. Amen. Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur, pour que tu augmentes notre générosité. Nous prions ce matin, Seigneur, et je vous invite à prier avec moi en ce moment. Seigneur, augmente en moi en 2022 et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, augmente en moi cette vision de ton rêve pour l'Église. Augmente en moi la générosité. Seigneur, donne-moi, Seigneur, d'avoir cette grâce de donner. Augmente en moi ce désir de rencontrer les besoins qui sont autour de moi, de contribuer à ma manière, à ma façon, selon mes capacités, de pouvoir contribuer à l'œuvre de l'Église dans cette région, Seigneur. Que je puisse être généreux de cœur, que tu puisses mettre en moi cet esprit de générosité. Seigneur, je prie que tu augmentes en moi aussi l'intégrité, que je sois vrai, honnête, authentique, que je cherche à répandre une bonne réputation de ton Église, Seigneur, que je ne puisse pas entacher le témoignage de l'Église, mais que je puisse l'encourager, que je puisse être un représentant, un fidèle représentant de ton Église, de ton rêve par l'intégrité dans ma vie, autant lorsque je suis seul que lorsque je suis avec des gens. Seigneur, je te remercie pour le témoignage du miraculeux dans ma vie. Donne-moi des opportunités de pouvoir partager ce témoignage de vie transformée avec toute simplicité afin de voir le miraculeux se reproduire dans la vie des gens autour de moi. Seigneur, c'est notre prière ce matin, Seigneur, afin que ton rêve puisse s'accomplir. Ce témoignage de vie transformée par la puissance de Jésus, il est aussi pour toi. Alors que nos yeux sont fermés ce matin, est-ce que tu as expérimenté ce témoignage de vie transformée? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que Jésus est entré dans ton cœur, dans ta vie? Est-ce que tu peux dire, il y a un avant, il y a un après Jésus? Ma vie a été changée, transformée. Ce matin, ce miracle est là pour toi aussi. Et alors qu'on est dans la présence de Dieu, simplement, Seigneur, ce matin, je t'ouvre mon cœur. Transforme-moi, change-moi. Fais-moi naître à nouveau, Seigneur, comme une nouvelle naissance, une vie transformée. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu entres dans ma vie. Que, Seigneur, j'entends ces témoignages de vie transformée. Je veux l'expérimenter moi aussi. Alors, je reconnais mon besoin. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Et je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie maintenant. Seigneur, transforme-moi. Tu pardonnes tous mes péchés et tu me donnes une vie nouvelle en toi. Dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière ce matin, juste t'encourager en quittant, juste avant de sortir, en sortant de cette salle, de t'arrêter à l'espace bienvenu et de dire à la personne qui est là, j'ai fait cette prière ce matin. Elle va te tendre la main pour t'aider à marcher pour Jésus, à voir ta vie être transformée. J'aimerais qu'on se lève ensemble, s'il vous plaît, en terminant. J'aimerais qu'on chante ce chant que nous avons chanté tantôt. Tu es là parmi nous, celui qui transforme nos vies. Il est là parmi nous ce matin. J'aimerais qu'on le chante en terminant. Le rêve de Dieu pour son Église, c'est Jésus au milieu de son Église. Et c'est ça qui rend tout possible. Témoignage du miraculeux, de marcher dans l'intégrité et dans la générosité. Alors, on chante ensemble.